de la BD Zombie, qui parle de zombies.
Salut.
Et donc, on va évoquer ces deux grandes figures de l'au-delà aujourd'hui avec ses auteurs et voir un petit peu quelles sont les grandes thématiques qui tournent autour de ces deux personnages, quelles sont leurs différences, pourquoi les zombies, pourquoi le vampire, et un petit peu tous ces sujets. Justement, ma première question à tous les deux, c'est pourquoi le vampire et pourquoi le zombie? Pourquoi avoir décidé d'écrire dessus?
Oula, pardon, désolé. Je suis pas habitué, alors je peux rien. Et si jamais c'est pas explicite, faut lever la main, faut dire que t'es nul. Les zombies, moi, c'est un amour de jeunesse. Ça a commencé quand j'ai vu le premier Romero dans le supermarché. Ça m'a scotché. Je me suis dit, oh, c'est génial, les zombies, c'est cool, la putréfaction et tout ça. La survivance, l'être humain réduit à des pulsions minimales. Et je me suis toujours dit, quand j'étais petit, que quand je deviendrai grand, j'écrirai au moins une fois dans ma vie une histoire de zombie. Donc ça m'a paru tout naturel quand j'ai été grand, et publié chez les éditeurs de BD, de proposer une histoire de zombie. Donc voilà, c'est un vrai amour de jeunesse.
D'accord. Et pour toi aussi, les vampires, c'est une vieille histoire ou...
Bah oui, ça remonte à longtemps aussi, même si j'ai pas un amour particulier pour le vampire. En fait, tout ce qui m'intéresse, c'est vraiment toutes les figures des littératures de l'imaginaire. Donc en tant que créature, le vampire est intéressant. En plus, c'est une créature qui est vraiment plastique, donc on peut faire plein de choses avec. Mais par exemple, moi je me suis dit aussi un jour je ferai un truc de zombie, donc j'attends un jour d'avoir un bon projet pour faire une histoire de zombie aussi.
Peut-être un projet commun en futur entre tous les deux.
Pourquoi pas?
Moi aussi je traite vampire.
On va faire des crossovers entre les deux œuvres. Les vampires et les zombies sont un petit peu maintenant les deux dernières créatures de l'au-delà qui continuent à se perpétuer dans le domaine de l'imaginaire, que ce soit la littérature, le cinéma, la bande dessinée, comparé à d'autres, par exemple les ghouls qui ont complètement disparu, même les fantômes traditionnels. Selon vous, qu'est-ce qui fait que le vampire et le zombie soient aussi intemporels et immortels? C'est bon, le vampire, c'est Bram Stoker qui a vraiment lancé ça, donc ça fait maintenant plus d'un siècle. Et le zombie, bon, c'est Romero, on en reviendra un petit peu tout à l'heure pour parler de différence entre le zombie traditionnel qui vient du vaudou et le truc de Romero. Mais la figure du zombie a complètement explosé depuis maintenant 20 ans. Qu'est-ce qui fait, selon vous, l'intérêt et le fait que ça devienne un phénomène aussi important?
Go, ok. Moi, en ce qui me concerne, je pense que le zombie a eu sa grosse mode dans les années 70, entre 70 et 80. Il y a eu le cinéma, il y a eu les Romero qui ont lancé un truc, plein de réalisateurs italiens ont fait des films derrière. Et il y a eu 10 ans d'hémoglobine un peu à la mode, avec des films un peu nazes. Et ça s'est éteint tout seul, et je crois que le zombie en fait est revenu à la mode par le jeu vidéo. Où il y a des jeux vidéo comme Resident Evil ou Silent Hill, il y a des jeux en fait qui ont remis la créature du zombie en avant. Les gens trouvaient ça cool, et le cinéma a suivi, il y a eu un ou deux films de zombies qui n'étaient pas très bons, mais qui ont redonné le goût du zombie aux gens. Il y a eu le remake de Zack Snyder, il y a quelques années.
L'Armée des Morts.
Voilà, L'Armée des Morts. Et à partir de là, le zombie est devenu ultra cool en tant qu'objet culturel et tout ça. Et sans même aller chercher des trucs psychanalytiques, le zombie ça nous ramène à l'apocalypse ou à des peurs intérieures et tout ça, juste la créature en tant que telle est hyper graphique, elle est dégueulasse, elle sent mauvais, quand on la filme, elle prend la lumière, il y a des mouches partout, et je pense que grâce aux jeux vidéo et au cinéma, c'est devenu un espèce d'objet magnifié, et à partir de là, bon, une fois qu'une mode est lancée, c'est difficile de dire quand et pourquoi ça commence, et je pense que là, il y a une vraie mode du zombie, il y en a partout et tout ça, et c'est ça qui, par le petit œillet du jeu vidéo, qui pèse pas lourd pourtant et tout ça, et bah, le zombie est revenu en grand en fait dans la culture moderne.
D'accord. Et pour toi alors, le vampire, là qui connaît aussi un véritable revival depuis une petite dizaine d'années aussi.
Oui, bah, le vampire, il a une histoire un petit peu plus longue, effectivement, puisqu'on peut remonter à Stoker pour les débuts littéraires, mais il y a des histoires qui remontent les légendes remontent très très loin. Mais effectivement, il y a eu plusieurs changements dans l'image, c'est-à-dire le fait qu'il ait une histoire plus longue, ça a permis d'avoir des modifications avec le temps. Je pense qu'un des moments charnières, ça a été le moment de Amrise, qui a commencé à donner une autre vision du vampire, où le vampire était cette créature mystérieuse dont on ne sait jamais vraiment si elle existe ou pas, donc qui était complètement dans le fantastique, et avec Anne Rice, c'est devenu une vraie personne, c'est-à-dire quelqu'un qui a des sentiments, qui continue d'une certaine manière de vivre un peu comme, enfin de non vivre comme il vivait avant. Et puis effectivement, il y a le phénomène de Twilight qui a permis de relancer complètement. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est plutôt, non, même si c'est une créature qui est très cinématographique aussi, elle a été plutôt été lancée par la littérature. Même s'il y a eu beaucoup de films donc de cinéma, hein, dans les premiers films, Nosferatu par exemple, donc c'est très lié. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt les livres qui ont relancé l'intérêt pour le vampire. Voilà. Et donc, encore une fois, hein, quand on arrive avec Twilight, c'est encore une vision différente du vampire. Hein. C'est un vampire qui est sexy, mais qui est plus vraiment non-mort. On insiste très peu dessus, il a des enfants, etc. Donc c'est une vision très édulcorée du vampire. Il ne mord pas vraiment. Donc c'est la dernière mouture. Je pense que ça va encore changer.
Toi justement, dans ton travail, tu te situes dans quelle lignée par rapport à tout ça? Le vampire plutôt gothique, plus proche de cette nouvelle vague, un peu de la beat lit anglo-saxonne, ou autre chose encore?
Moi en fait, c'est pas Twilight qui m'a intéressé au vampire, c'est vraiment Buffy. Moi je suis vraiment de la génération Buffy, et pour moi le vampire c'est dans Buffy contre les vampires. Donc c'est un vampire qui est une créature à la fois animale, mauvaise, et en même temps qui est douée d'une grande complexité. Et d'ailleurs, enfin c'est vraiment la figure de la Bitlit originelle, non pas justement dans Twilight, qui finalement n'est pas forcément un excellent exemple de la Bitlit, puisque ça rompt avec un des codes importants, c'est-à-dire qu'il faut que le personnage féminin soit extrêmement fort. Or là c'est pas ça, c'est la fille qui vient se faire sauver la plupart du temps. À part le fait qu'Edouard n'est pas capable de lire dans ses pensées, le reste du temps, elle ne sert pas à grand chose. Elle est là pour se faire sauver. Alors que dans Buffy, elle a vraiment des pouvoirs, c'est elle qui va terroriser les vampires, ça devient propre mitaine. Et donc moi, j'avais envie de retrouver un peu ce plaisir, ce côté féministe aussi de la bitlit, où c'est vraiment les filles qui se prennent en main et qui cassent du vampire. Et donc le vampire, c'est une espèce de repoussoir en ces cas-là.
D'accord. Et toi Olivier, tu te situes de quel côté pour les zombies? Alors est-ce que c'est plutôt la figure du zombie traditionnel issu du vaudou, ou celle justement qui a été développée par Romero et puis de nombreux autres cinéastes par la suite?
Moi dans la BD que j'écris, on travaille en fait sur les zombies plus modernes, donc ceux de Romero, des morts juste en décomposition. Et on a rajouté l'élément en fait novateur de ces dernières années, le zombie en fait qui court. Jusque-là, les zombies se contentaient de crapahuter gentiment, et après 28 jours plus tard, le film de Danny Boyle, on a vu des enragés, qui ne sont pas tout à fait des zombies, enfin des gens morts, en toute apparence, mais complètement enragés, et donc ils courent. Et ça a un peu révolutionné le monde du zombie, le zombie qui court, et nous dans la BD, on essaie de jouer avec les deux, c'est-à-dire d'avoir la masse lente, inquiétante, quoi qu'il se passe, une fois qu'ils vous piègent quelque part, vous ne pouvez plus en sortir. Et d'avoir aussi le côté enragé, des zombies complètement timbrés, qui courent dans tous les sens. Dès qu'ils reniflent un peu de sang, ils se mettent à vous galoper après. Et donc voilà, je suis plus dans le côté moderne. Le côté vaudou, esclave, ça c'est plus trop macabre, mais je crois qu'il y a plus grand monde qui travaille sur cette ligne.
Tout à fait, depuis les années 50.
Non,
en fait,
c'est fini. Ouais.
Romero avait vraiment redynamisé tout ça, et Romero n'aime pas du tout justement la nouvelle tournure.
Ah oui, j'avais lu un article là-dessus.
Des zombies qui courent,
c'est sûr, ça lui tue son business. Il est vieux maintenant, il faudrait qu'il court après aussi.
Mais il continue, pourtant, il continue encore à faire des films de zombies très lents et tout ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression un petit peu qu'il y a une nouvelle école encore qui se développe par-dessus Romero. Tout le monde a suivi après, depuis 1968, depuis Ennemi des morts vivants, tout le monde s'est mis un petit peu à copier son style. Et puis on a l'impression que depuis 28 jours plus tard...
Tu me traites de copieur?
Du tout, du tout. Depuis 28 jours plus tard, par contre, ça a lancé un second mouvement de gens finalement qui n'avaient pas forcément ces références à Romero, quoi, qui a un petit peu redécouvert, même tout simplement découvert la figure du zombie, quoi. Est-ce que, justement, pour toi, ce nouveau zombie qui court, c'est quelque chose de complètement différent de tout ce qu'avait développé Romero?
Je pense en fait que c'est une suite logique où les zombies qui sont tout mous, on en a vite fait le tour, on peut raconter toutes les histoires qu'on veut, elles se ressemblent toutes, les zombies vous coincent quelque part et vous attrapent, voilà. Donc, maintenant, le zombie qui court, ça remet un peu de... Et là, une fois de plus, c'est cinématographique, ou alors ça vient du jeu vidéo, la révolution, où il y a des choses qui sont différentes, qui nous excitent, qui nous font peur et tout ça, et le fait qu'il court, c'est juste la petite composante technique de scénario qui fait que bah, vos acteurs vont se mettre à courir, vous allez avoir plus peur, et là où avant vous n'aviez pas peur quand vous croisiez un troupeau de zombies, quand ils se mettent à courir, vous avez peur. Donc à nouveau, ça revient excitant.
Alors, on va être quand même obligé un petit peu de parler du sens profond du zombie et ce que ça représentait tout ça. Est-ce que pour toi, justement, cette figure du zombie qui court, c'est pas non plus un rapport direct avec notre modernité, notre monde qui va de plus en plus vite, justement? Est-ce que le zombie de Romero n'est pas complètement obsolète, justement, avec notre époque?
Le zombie de Romero, oui, est obsolète, même si j'ai beaucoup de respect pour son travail, ses films, même s'ils sont de moins en moins bons. Il est dépassé, mais c'est normal, à un moment donné, on est toujours dépassé par des nouveaux auteurs, des nouveaux artistes. Et le zombie moderne aussi, le fait qu'il court, c'est une chose, mais il nous fait plus peur avec d'autres peurs qui sont plus modernes. C'est la peur de la maladie, la peur de la contagion, le fait qu'on puisse tous mourir un jour de la grippe aviaire ou de la vache folle ou ce genre de choses. Et le zombie moderne, en fait, il est plus basé là-dessus que sur de l'horreur classique. On va tous mourir et se relever. Bon, ben ça, c'est fini, on n'a plus trop peur de ça. Et le côté de tomber malade avec de la nourriture, avec des perfusions, des choses comme ça, on retrouve ça dans Zombie qui court. Et le côté course rapide, colère, enragée, c'est quelque chose de très moderne. Notre monde en fait est de plus en plus rapide, ça c'est ce que tu disais. Les zombies vont aussi de plus en plus vite. Et le fait qu'ils courent, je pense, répond à une nouvelle peur, la peur de la contagion et tout ça. Chose qu'il n'y avait pas dans les années 70. Depuis, il y a eu le sida ou ce genre de choses.
Absolument. Et justement aussi pour le vampire, maintenant en fait ce qu'on va appeler la bitlit, c'est donc quelque chose de très romantique, quelque chose qui était présent aussi dans le roman gothique, donc il y a cette réinterprétation un petit peu de ce classique, de Dracula et tout ça, mais comment toi tu vois un petit peu cette nouvelle approche?
Quand on regarde un petit peu, moi je pense que le fait que le vampire marche aussi bien actuellement et dans les formes qu'il prend pour passionner les foules en fait la plupart du temps, c'est qu'il incarne, à mon avis, justement très bien l'époque. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait moins peur qu'avant. On se fait beaucoup plus peur justement avec des zombies qu'avec des vampires. Parce que le vampire, en fait, c'est un peu une espèce d'incarnation de ce qu'on a. C'est-à-dire on a d'un côté quelqu'un qui va vivre éternellement, qui va non vivre éternellement, mais en tout cas qui échappe à la mort, qui souvent va rester beau, du coup, parce qu'on n'a pas beaucoup de vampires vieux. Ou alors ils rajeunissent, hein, dans le Dracula de Stoker, on voit vraiment rajeunir au fil du temps. Donc il y a un peu l'idée d'éternelle jeunesse, donc le côté sexy, on ne vieillit pas, cosmétique, quoi, on ne mourra jamais. Et en même temps, c'est quand même un personnage qui est en train de détruire le monde dans lequel il évolue, puisqu'il ne vit que parce qu'il est parasite. Et je pense que c'est vraiment l'incarnation du monde contemporain, où on arrive à des miracles techniques, technologiques, etc., médicaux, mais en ayant toujours l'idée que tout ça a un coût et qu'il y a toutes les destructions environnementales qui vont avec. Et donc je pense que c'est ça. Donc le vampire, c'est rassurant de ce point de vue-là parce qu'il arrive à avoir les deux. Il est méchant, mais il vit éternellement. Et c'est à mon avis ce qui plaît. Alors moi, pour le coup, c'est pas ce qui m'a intéressé vraiment dans le vampire. Mon idée, c'était justement de mettre un vampire vraiment méchant. Et la comparaison avec le zombie, c'est que d'une certaine manière, le zombie, c'est quand même plutôt le nombre. C'est la masse, et le zombie, c'est plutôt un peu le stalinisme, si on veut faire des comparaisons. Alors que pour moi, le vampire, c'est plutôt le fascisme, c'est plutôt ou le nazisme, c'est-à-dire c'est des seigneurs, des aristocrates extrêmement méprisants. Il y a toujours des lignées de sang qui existent, donc des histoires de race. Voilà. Et donc quand j'ai écrit sur les vampires, je me suis dit, il me faut des vampires nazis. Parce qu'il y en a marre du vampire sympa qui veut faire des bisous. Non, c'est pas possible, un vampire ça fait pas des bisous. Donc je voulais vraiment des vampires nazis et j'ai construit mon roman comme ça. C'est-à-dire une attaque, une contagion aussi, mais de la peste brune cette fois-ci.
Voilà. D'accord. Très intéressant, comme, enfin la comparaison en tout cas.
Je sais pas si c'est très effectif.
Non, mais c'est très intéressant.
J'en ai d'autres, hein. Je te garde pour après.
Et moi par contre, pour revenir un petit peu sur cette figure, cette évolution de la figure du vampire, ce que je trouve qui manque énormément actuellement, c'est ce côté tragique, mm-hmm. qui était quand même essentiel au tout début de la littérature vampirique, même mm-hmm. jusqu'à l'époque Hammer, mm-hmm. Le film avec Christopher Lee, le côté du tragique du vampire était très important. Maintenant j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est complètement éliminé, et que le vampire est soit quelqu'un qui est bien dans sa peau, mm-hmm. un petit peu comme on voit dans Twilight, bon jeune, cadre dynamique, tout mm-hmm. se passe bien, ou effectivement quelque chose de très mauvais, mais sans le côté dramatique.
Bah, c'est parce que l'immortalité, justement, n'est plus vraiment vécue. Elle est vécue comme une espèce de fantasme et pas comme une malédiction, alors qu'avant, c'était quand même... Il y avait aussi le côté religieux qui, à mon avis, est beaucoup parti, mais le vampire, c'est une créature qui est une créature maudite. Donc on a perdu ce côté-là aussi. Le fait d'être immortel, c'est aussi un crime contre Dieu, c'est blasphématoire. Or ça, évidemment, aujourd'hui, ça marche beaucoup moins bien. Donc il va falloir trouver d'autres choses. Moi, par exemple, donc j'ai écrit le Miroir aux vampires, j'avais fait avant un autre roman sur les vampires, complètement différent, avec une approche un peu SF du vampire. Et justement, c'était l'idée de transformer le vampire de chasseur en chassé, et c'était le moment où, justement, on s'aperçoit que la Terre va pas très bien, et que l'homme risque de disparaître, et du coup, on chopait des vampires pour essayer d'extraire ce qui était intéressant et booster un peu l'humain, histoire qu'il survive à tout ça. Donc voilà, c'était une autre approche, et là, du coup, ça me paraissait intéressant, parce que le vampire, au lieu, encore une fois, d'être juste tranquille dans son camp et de faire le vampire, draper dans sa cape et de se la jouer, et ben, il devenait chassé, et on retrouvait un peu le côté tragique. Il est immortel. D'ailleurs, j'avais rajouté une autre chose. J'avais voulu revenir justement sur ce côté l'immortalité qui est finalement une malédiction. C'était que c'était des vampires qui étaient incapables de vivre une vraie vie. J'avais construit mes personnages, par exemple, dans... bon, ça, c'est un peu de la cuisine, hein, mais chacun, en fait, incarnait d'une certaine manière un art, et ils s'apercevaient qu'ils étaient incapables de continuer à être artistes. Parce que sans la peur de mourir, bah, ils n'avaient pas besoin de créer ou de faire quoi que ce soit. Et du coup, ils continuaient de faire ça, mais en reproduisant mécaniquement, sans vraiment le ressentir. Voilà. Donc, moi j'ai essayé, il y a ce qui se passe actuellement autour du vampire, et moi j'ai essayé, par deux biais différents, soit de revenir sur d'autres choses, soit de trouver un autre élément.
Il y a un point très intéressant que tu as soulevé concernant la religion, justement. Je dois déjà te demander... Le Romero, lui, était quelqu'un qui a été élevé dans un milieu très catholique, même si lui, il avait des rapports un petit peu difficiles avec la religion. Lorsqu'il fait son film, en fait, il y a d'une certaine façon une remise en question complète de la religion. On ne parle jamais de chez les chrétiens, en tout cas, quand on est mort, on est mort, à part Jésus, qui est le seul zombie officiellement reconnu.
Lazare. Qui a été ressuscité.
C'est vrai. Bon, ça fait deux.
Il y a deux zombies.
Par contre, quand on parle de soulèvement massif de zombies, c'est censé être l'apocalypse au terme biblique du terme. Est-ce que toi, c'est un domaine que tu as voulu explorer un petit peu
La religion.
Ouais.
Pas vraiment. En fait, moi, alors, je ne suis pas croyant. Du coup, donc peut-être que ça transparaît dans ce que j'écris. J'essaye de. Pareil, pas de pas en fait le trop le laisser paraître, du coup, parce qu'il y a des gens qui peuvent croire et d'autres non-croyants qui peuvent lire, et je veux pas faire passer mes idées comme ça, c'est l'histoire qui compte. Par contre, certains personnages dans les histoires que j'écris ont des points de vue. Certains croient, d'autres non. Et deux, trois fois, on aborde la religion, et pour la plupart des personnages, le fait que les zombies soient là, qu'il y ait une invasion de morts vivants et tout ça, c'est quelque part une preuve de la non-existence de Dieu, ou alors que Dieu n'aime pas ses enfants, tout simplement. Et deux, trois fois, je l'aborde en fait avec des personnages qui en parlent, en disant juste qu'à un moment donné, ils enterrent un des leurs, et puis il y a un des personnages qui donne la parole à d'autres personnages de sa bande et qui leur dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit encore en Dieu ?» Personne ne répond, il dit « Bon, ben, donc du coup, pas de prière, on enterre et c'est fini. »
C'est aussi une grande différence qu'on voit entre un petit peu tout ce qui se fait chez les Américains, que ce soit dans Walking Dead, la série télé, que ce soit même dans le zombie de Romero, où finalement la religion a toujours apparu durant le tour.
Disons que c'est culturel, je pense que la France est un pays de moins en moins croyant, l'Europe de façon générale, et alors que les États-Unis sont beaucoup plus croyants que nous, il y a beaucoup plus d'églises, les gens vont beaucoup plus à l'église. Pas seulement les catholiques, hein, les musulmans, tous les cultes en fait là-bas sont plus représentés, beaucoup plus de gens croient. Et donc ça transparaît forcément dans l'écriture des scénaristes qui travaillent sur les séries télé ou des comics là-bas. La religion, peu importe la foi, la religion fait partie intégrante d'une histoire là-bas. On peut pas raconter une histoire qui dure 15 tomes sans qu'il y ait un personnage très religieux qui va donner son point de vue. Alors qu'ici, on peut s'en passer complètement.
Donc on peut parler d'une école française du zombie, alors presque.
Ah ouais, complètement. Et puis même sans doute que les détails culturels de chaque pays, de chaque auteur, peuvent donner des petites précisions. Je sais pas, des Allemands pourraient traiter ça d'une autre façon, des Norvégiens encore d'une autre façon. Donc nous, enfin, je dis nous, Sofiane, le dessinateur, et moi, on est français, et donc du coup, je pense qu'il y a notre particularité française qui passe. Alors, pour les Américains, on est des nihilistes, on est des bons à rien, anarchistes, nihilistes et tout ça, et donc c'est sûr que l'absence de Dieu, bah, ça se ressent dans notre histoire. Même si on n'en fait pas un langage au niveau des personnages, on ne met pas ça en avant. Ce qui compte, c'est l'histoire, les personnages, les zombies, la religion, c'est juste une petite composante de l'histoire qu'on néglige.
D'accord. Pareil, le christianisme chez Vampire, bah, c'est quelque chose aussi de très important. La croix qui est censée repousser le vampire. Il y avait le roman La Forteresse Noire qui a un petit peu joué là-dessus, essayer de revenir un petit peu, d'aborder ça d'une manière un petit peu différente. Est-ce que toi, c'est un sujet que tu as voulu traiter dans ton approche du vampire? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle?
Non, moi je l'ai complètement évacué parce que justement je pense que ce mouvement me semble plus intéressant et puis c'est un mouvement de fond, comme le disait Olivier. Et puis je pense que ça marche pas effectivement sur un public français, et moi-même ça marche pas sur moi, donc je préférais éviter. Ce qui est toujours rigolo, c'est de faire des allusions et des blagues là-dessus. Avec les vampires, c'est plus facile qu'avec les zombies parce que c'est une créature qui est très justement marquée. Donc on peut toujours avoir un personnage qui s'amuse avec une croix, mais c'est ah, éloigne-toi, et puis ça marche pas, donc il est ridicule. Mais sorti de là, pas tellement. Moi je l'utilisais toujours dans l'autre roman dont je parlais tout à l'heure, où justement l'apparition du vampire, même si elle était expliquée de façon SF, les religions voyaient justement interpréter le vampire et voyaient ça comme un signe millénariste, c'est-à-dire l'apocalypse arrive et il faut se débarrasser des vampires. Donc, finalement les vampires se trouvaient coincés entre deux feux, entre la science d'un côté qui essayait de les récupérer pour leur procurer de l'ADN, et la religion qui essayait de les détruire tout simplement parce qu'ils nous annonçaient l'apocalypse et que le combat pour les âmes avait commencé. Voilà. Mais sinon, pour le reste, même si moi la thématique religieuse est une thématique qui m'intéresse, c'est plutôt souvent dans l'absence de Dieu que je travaille, et c'est ce que j'ai fait avec les vampires aussi.
Par contre, la dimension politique, donc, est quelque chose qui t'interpelle beaucoup plus, tout du moins dans l'utilisation que toi tu en fais.
Bah, ce qui m'a marqué, oui, effectivement, hein, je vais pas te dire non, ce qui m'a marqué moi justement, c'est quand j'ai fait la comparaison, je vais encore parler de Twilight, je suis désolé, mais quand j'ai lu Twilight, en fait, si on lit tome 1, on s'aperçoit que c'est exactement la même histoire que dans Buffy. Il y a des adaptations, bien sûr, mais on a un couple divorcé, la fille qui part vivre avec l'un de ses parents dans un endroit éloigné, qui tombe amoureuse d'un beau garçon pas loin de son établissement, qui se trouve être un vampire. Ce canevas, c'est le même dans Buffy et dans Twilight. Sauf qu'après, on voit très bien que Joss Whedon, c'est un auteur de gauche, et que Stephanie Meyer, c'est un auteur de droite. Parce que tout est renversé. C'est-à-dire là où Buffy va être une figure féministe, une figure de proue, d'émancipation des femmes, etc., avec des super pouvoirs, justement, qui lui permettent de se maintenir toute seule, qui va pouvoir coucher avec des vampires si elle a envie, mais qui n'aura jamais envie de devenir vampire. Il n'y a qu'un épisode où elle apparaît, et justement, on montre bien que c'est son pire cauchemar. C'est l'épisode B de la première saison.
Quel numéro, quel épisode?
Ça doit être le 7 ou le 8, mais je ne suis pas sûr. Et voilà, alors que dans Twilight, c'est l'inverse. Elle n'arrête pas de lui réclamer de devenir vampire. C'est la demoiselle en détresse qu'on doit sauver. Et le vampire est l'incarnation des forces masculines, comme si le masculin, c'était sans arrêt une espèce de désir qui ne peut pas se contrôler. Donc c'est la peur de la sexualité, alors que chez Buffy, c'était abordé de façon beaucoup plus intéressante. Et puis alors après, il y a tout ce qui est autour du mariage, hein, bien sûr. Si on lit la suite, on s'aperçoit donc pas de sexe avant le mariage. On couche.
Ah, et après non plus.
Ces dialogues sont super forts. Ouais, ouais. Et ils couchent ensemble deux fois, si je me souviens bien. Après, j'ai arrêté de lire parce que ça m'ennuyait. Mais. Enfin, non, je vais vous dire où j'ai arrêté après. Mais, et donc, après, évidemment, l'enfant naît tout de suite. Donc, il ne faut pas trop coucher parce que c'est quand même pour concevoir. Et quand elle est enceinte, l'enfant menace la vie de la mère. Donc, ça, même dans des pays extrêmement. J'allais dire rétrograde, ce serait trop de mon opinion, mais extrêmement contraignant vis-à-vis de l'avortement, autorise ce genre de choses. Là, non, c'est hors de question. On sort l'enfant, mais pas d'avortement. Et c'est là après que j'ai arrêté, parce que je me suis rendu compte que nous avons donc un vampire, donc un mort qui couche avec une vivante et qui arrive à avoir un enfant. Donc on a de la nécrophilie. L'enfant naît après avoir tué sa mère, donc apparaît-il. Et là, si vous vous souvenez bien, excusez-moi si je fais des spoilers, hein, mais c'est là qu'il y a le loup, comme s'appelle Jacob, qui tombe amoureux de la petite fille, bébé. Donc c'est de la zoopédophilie. Tout ça mélangé avec un discours extrêmement réactionnaire sur les mœurs, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et donc je me dis, j'arrête, c'est trop. C'est trop, là, je peux pas tenir, surtout qu'il n'y a pas c'est Jacob qui raconte l'histoire, et j'aime pas quand c'est Jacob qui raconte l'histoire, donc j'ai laissé tomber. Mais voilà. Donc, mais si j'en reviens au départ, on a Buffy, c'est vraiment le vampire de gauche, et Twilight, le vampire de droite. Avec les valeurs qui vont avec. Et donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est dommage quand même que... j'ai clairement situé mon camp, et je me suis dit, justement, il faut faire de du vampire une créature politique, comme ça a été fait pour le zombie d'ailleurs. C'est là que j'en suis venu à mes vampires nazis. Parce qu'ils sont méchants, mais en même temps sexy.
Quand même.
Bah voilà, donc il y a un peu la fascination qu'il y a dans le nazisme, où vous avez les foules bien ordonnées, etc., le leader au-dessus, le rouge, le noir, le blanc. Donc ça marche très bien avec le nazisme, les vampires. Donc, hop.
J'en profite pour faire un petit aparté. En fait, Buffy le vampire, c'est pas officiel, mais c'est un plagiat d'un manga japonais qui s'appelle Eko Eko Azarak, qui a été écrit à la fin des années 70, et qui raconte l'histoire d'une lycéenne, comme ça, qui est dans un lycée, et dont la mission est de tuer justement des vampires, des sorcières et tout ça.
T'es en train de briser mon cœur.
Mais je sais. Et en fait, il y a eu plusieurs adaptations en film, et il y en a une qui avait été distribuée aux États-Unis, et le premier épisode de Buffy est sorti du style un an après la sortie en vidéo de cette adaptation.
Le film Buffy qui est sorti avant, hein.
Alors c'était après la sortie,
c'est du 97 la série, et ça pouvait être 90,
il y a eu un 93. Film,
et oui, il y a eu un film qui est une catastrophe, mais qui est très drôle.
C'est peut-être pour ça que je ne suis pas.
Ah, oh, le film, il est terrible, franchement. C'est... Pardon ? Oui, c'est Bichette la Terreur, voilà, par exemple. Rien que il faut le voir en VO. Enfin, en VF, pardon, parce qu'en VO, on prend presque au sérieux. Non. C'est très drôle du second degré, par exemple, Buffy, c'est là où on voit la métaphore du vampire, a mal au ventre dès qu'un vampire approche. Et ça ressemble évidemment au syndrome prémenstruel. Donc, et c'est dit de façon très appuyée, donc on ne peut pas se tromper, c'est pas une interprétation déviante de ma part. Donc voilà, pour dire un peu l'ambiance du film.
D'accord.
Donc c'est un peu n'importe quoi, c'est très drôle, mais c'est vraiment de la série Z.
Ok. Et justement, pour revenir un petit peu alors sur ce terme politique, Romero, lui, quand il fait La Nuit des Morts Vivants, il le dit officiellement, les producteurs qui sont avec lui, ses petites et tout ça, n'ont aucune volonté de faire un film politique. N'empêche, lorsque le film sort, il y a Martin Luther King qui s'est fait assassiner. Le film prend une dimension politique, on le veuille ou non, et effectivement, petit à petit, il va développer quand même, malgré tout, beaucoup plus ce côté avec Zombie, qui est une critique de la société de consommation, Le Jour des Morts Vivants, qui là est une critique du militarisme. Est-ce que pour toi, c'était un sujet qui t'interpellait, enfin, le côté justement du zombie, de cette masse qui vient pour chambouler l'ordre établi, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ?
Alors, la politique, oui, évidemment, c'est un sujet qui me touche, et comme pour la religion, en fait, j'essaie de ne pas donner mon avis, ou j'essaie en tout cas de ne pas écraser l'histoire avec mon avis, et je m'attache, en fait, quand je dis une chose qui pourrait ressembler à un truc trop à gauche, j'essaie d'avoir un personnage qui va lui répondre un truc qui sera très à droite, ou trop à droite.
Très japonais, ça.
Et en fait, disons que sinon, en fait, si on a une BD qui est tout du long, parce que la BD c'est quand même un divertissement, et si au bout de 50 pages de BD, l'auteur vous a saoulé avec ses idées sur notre monde, notre civilisation qui consomme trop, qui pollue la planète, qui tue les dauphins, qui tue les phoques, on fait mal aux pingouins, ok, on veut se détendre aussi, quoi. Et en fait, donc j'essaie d'aborder dans cet après-apocalypse, l'histoire se passe plusieurs mois après que les zombies aient réduit la planète en cendres. Les gens survivent et on revient à des choses fondamentales, c'est-à-dire que quand on est un petit groupe de survivants, on revient à la méfiance ou à l'entraide. Les personnages sur lesquels je travaille, quelque part, ont une vibration positive et ont plus s'entraider, chercher à se sauver les uns les autres, plutôt qu'à garder chez eux les dernières boîtes de conserve qu'ils ont. Et donc de là, il y a des fortes têtes qui prennent le dessus, c'est-à-dire que je pense qu'on peut tous faire des conneries, la société en entière, et donc c'est ça en fait que fait passer Romero, c'est-à-dire que notre société est pourrie, tous les gens sont pourris, et quoi qu'il arrive, c'est perdu. On est quasi d'accord avec ça, Sauf que de temps en temps, il y a une personne qui peut rattraper la bêtise de beaucoup. Et je travaille, en fait, sans donc avoir d'opinion politique trop marquée, je travaille au moins là-dessus, en disant qu'une personne, au moins une fois, peut rattraper les bêtises qu'on peut tous faire. Et mon idée, c'est qu'une fois que tout est fini, quand les personnages vont céder, donc là, c'est les métaphores de ce qu'on peut nous être une fois qu'on s'entraide, l'essentiel, c'est de ne pas taper sur son voisin, d'écouter la personne qui va vous parler, d'essayer de comprendre son point de vue. Comme on est en circuit fermé, en groupe de personnes qui sont très peu nombreux, c'est comme des cellules anarchiques qui fonctionnent très bien toutes seules. Donc je développe peut-être plus sur une espèce d'anarchie moderne, survivaliste, où les personnages, quand tu es confronté au pire, si tu veux t'en sortir, il faut t'en sortir, tu fais au mieux avec le pire. Et donc il n'y a plus de questions politiques, il n'y a plus de raisonnement politique, et à un moment donné, dans le tome 2 et 3, c'était une volonté avec Sofiane, le dessinateur, d'agrandir notre univers, donc du temps passe, et un an, deux ans, trois ans après, les personnages donc, se regroupent, ils commencent à être des milliers. Et donc il y a à un moment donné, plusieurs personnages qui disent comment on fait maintenant pour décider. Et donc t'en as un qui dit, faudrait peut-être qu'on reparle du droit de vote. Et donc là, t'as tout de suite des gens qui commencent à dire, non, le droit de vote, c'est ce qui nous a foutu dans la merde, quoi. Et donc là, je recommence sur un vrai débat. Est-ce qu'il y a un système mieux qu'un autre ou pas, ou alors est-ce qu'on peut se suffire à nous-mêmes juste en discutant et réussir à avancer comme ça?
Tu utilises quand même le zombie pour parler des problèmes de fond, de société quand même.
Oui, mais je me fais pas en fait porte-parole d'un groupe politique ou d'une mouvance politique ou de ma propre opinion. J'essaie, et quelque part c'est constructif, parce que des fois en écrivant, je découvre pas des opinions ou des idées arrêtées sur certaines choses, et comme je discute beaucoup du scénario avec le dessinateur, et on n'est pas toujours d'accord, lui m'a fait des remarques en fait en me disant, attention, t'es très méchant avec tel truc, ou au contraire, t'es hyper gentil avec telle autre idée, quoi. Et lui n'étant pas d'accord avec moi, mais du coup ça m'oblige à réfléchir à moi, à discuter et à me dire tiens, mais si je crois qu'à un moment donné j'ai écrit une ligne sur l'avortement, je suis pro-avortement évidemment, et lui m'a dit que t'as été hyper fort, t'as écrit un truc ultra violent sur l'avortement. Et j'ai retiré la ligne en fait, en travaillant avec lui, on l'a réécrit. Et c'est le genre de travail en fait que j'essaye de faire avec Zombie, où je mets le divertissement avant tout, et en fond pour les gens qui lisent ça de façon détendue, qui sont tranquilles chez eux et qui prennent une heure pour lire une BD, on peut glisser des choses un peu plus denses. Pour les gens qui lisent ça en 5 minutes dans le métro ou alors avec trois gamins qui courent entre leurs pieds, il faut se contenter du divertissement.
D'accord. Alors on parlait, ton influence première ça a été plutôt le cinéma. Maintenant quand on parle de zombies de BD, il y en a une qui a énormément marqué ces dernières années, c'est Walking Dead. Alors il y en a eu d'autres avant aux États-Unis, il y avait Dead World notamment qui était très bien, mais ça avait été étudié chez un petit indépendant et ça n'avait pas eu vraiment un grand succès. En fait, Walking Dead reprend un petit peu l'univers qui avait été créé dans Dead World, mais avec, grâce à des plus gros tirages, tout ça, ça a beaucoup plus fonctionné. Est-ce que ça a été une influence dans la création du zombie?
Mais alors, en fait, moi je connais bien Charlie, le dessinateur de Walking Dead, et j'ai commencé à lire Walking Dead à l'époque, j'habitais au Canada. J'ai commencé à les lire quand j'étais donc là-bas, et eux, ils n'étaient pas connus du tout, ils commençaient leur série, personne n'a acheté au début, et moi j'ai lu, je crois, les 3 ou 4 premiers épisodes, je trouvais ça cool, et après je suis revenu en France, donc j'ai décroché, j'ai plus suivi, et quand je suis revenu en France, c'est là que la série cartonnait, et je me suis aperçu du coup qu'il y avait un vrai phénomène zombie. Moi dans ma tête, j'étais déjà parti avec mon histoire, ils ont commencé 3 ou 4 ans avant nous, mais comme moi je ne suivais pas l'actualité ou quoi, j'ai lu peut-être les 3 premiers recueils, en anglais à l'époque, et quand moi j'ai commencé mon truc, tout le monde m'a dit bah, attends, tu fais du Walking Dead et tout, et j'ai dit bah ouais, je fais des zombies, mais eux font du zombie, c'est difficile de réinventer le monde du zombie, et le fait que Carton, c'est sûr, c'est la série référence, et nous on fait du Walking Dead à la française, si on peut dire, ou eux font du Walking Dead à l'américaine. Donc c'est pas une inspiration. J'ai lu les premiers, c'est une bonne BD, et maintenant je les lis pas en fait, parce que je me dis justement, si jamais ils ont une bonne idée qui m'inspire, que je voudrais pas la ressortir inconsciemment dans notre truc.
Alors ça, c'est un drame un petit peu qu'on trouve dans le fantastique français, que ce soit au cinéma ou dans la littérature. Dès quelque chose se fait, on a toujours tendance à essayer à le comparer avec ce qui se fait dans les pays anglo-saxons, à prendre les œuvres comme des sous-œuvres américaines et tout ça. Est-ce que tous les deux, c'est quelque chose qui vous pose des problèmes de tout temps, de voir justement faire des comparaisons avec ce qui existe chez les Américains, chez les Anglais?
Il faut les faire de toute façon, parce que c'est eux qui sont quand même la figure de proue de tout ça, donc on est obligé d'en tenir compte. Ouais, voilà, dans les références que je vous ai données, c'était surtout Buffy, Twilight, même si c'est pour m'en détacher. Par contre, je pense qu'il y a moyen de le faire à la française, comme le disait Olivier d'ailleurs, c'est que Bah moi par exemple, mon histoire, ça se passe à Compiègne. Voilà. Donc c'est dans l'Oise, c'est vrai que c'est pas l'endroit où on verrait des vampires. Pour les mettre à Los Angeles, ça pèterait plus, mais je vais pas faire un livre sur Los Angeles que je connais pas bien, qu'un Américain fera beaucoup mieux que moi. Donc il ne s'agit pas de les imiter, la créature du vampire, elle a existé avant l'Amérique, de toute façon, donc enfin avant les États-Unis, que le pays soit formé, donc on peut remonter plus loin. Moi justement, je vois surtout une occasion, c'est il y a des formes modernes, donc il faut regarder comment elles sont traitées, c'est toujours vraiment intéressant de voir comment chacun tire le thème dans un sens ou dans l'autre. Justement, l'opposition politique est vraiment intéressante, dans quelques films et de Twilight, mais il y a plein d'autres versions qui existent. Et dans ce cas-là, après, c'est de remonter dans le temps et d'essayer de voir les différentes incarnations littéraires qui existent. Alors pour les vampires, je ne l'ai pas trop fait parce que moi, je ne suis pas fan de Dracula. Ce Dracula, justement, je le trouve un peu daté. Le côté, je suis là, enfermé dans mon château, même si voilà, j'ai revu le Dracula de Coppola il y a peu de temps, il est vraiment bien. Mais c'est le seul qui me plaît, les autres m'ennuient un petit peu. Mais j'y vois vraiment, moi, toujours l'idée d'établir une continuité. C'est vrai que ce sera plus difficile avec le zombie, parce que l'histoire est beaucoup plus récente. Mais c'est vraiment se replonger dans les racines de la littérature. Au 19e siècle, dans les nouvelles fantastiques, on trouve quand même des allusions autour du vampire, ne serait-ce que du vampire psychique, par exemple, dans le Horla de Maupassant. Le mot vampire, si je me souviens bien, est prononcé. Le personnage du Horla est vraiment décrit comme quelqu'un qui aspire la vie du narrateur. Donc c'est plutôt ces choses-là, moi, qui vont m'intéresser. C'est-à-dire que les incarnations modernes sont un déclic, mais on va aller chercher loin pour retrouver d'autres éléments, voir comment ça a été traité avec le temps, ce qu'on peut réutiliser, qui a été oublié, qu'on peut justement reprendre maintenant sous une forme moderne. C'est vraiment ça qui est bien.
Et toi, Olivier, alors est-ce que ces comparaisons incessantes avec les anglo-saxons, même s'il peut y avoir effectivement une influence, est-ce que c'est quelque chose qui t'ennuie à la longue ou pas ?
Ben non, pas vraiment. Enfin, comme disait Fabien, on est tout le temps comparé, donc je crois qu'on ne peut rien faire sans être comparé. On me dit tout le temps, mais quand tu dessines, tu ressembles à un tel, quand tu écris un bouquin, j'écris des romans aussi, on me dit, tes romans, ça me fait penser à tel autre auteur et tout. On fait toujours penser à quelque chose d'autre. Et là, pour le cas de Walking Dead, la comparaison est tellement évidente. Les mecs font une série de zombies qui cartonne, c'est sur la survivance. Nous, on fait une série de zombies qui cartonne un peu moins, mais c'est aussi sur la survivance, c'est normal, quoi. Et donc, non, je suis pas surpris, pas choqué, pas agacé. Je me dis, tant que ça se vend, cool, le jour où ça se vendra pas, je fais la gueule, et puis voilà, quoi.
D'ailleurs, ça fonctionne plus bien à rien parce que c'est sorti dans de nombreux pays, là. Tu m'en parlais tout à l'heure.
Oui, les zombies sont à la mode, donc du coup c'est quelque part facile à vendre pour les éditeurs. Si en plus c'est des bons bouquins, c'est encore plus facile. Donc nous, on profite de cette mode sans le vouloir, en fait c'est un travail inconscient. On voulait faire des zombies, c'est tombé au bon moment, c'est surtout ça qui nous fait marcher. La BD est bonne, pour ce que je peux en juger, et donc du coup ça se vend bien, et tous les pays quasiment en Europe l'ont sorti, et il n'y a que aux États-Unis où on n'est pas encore sorti.
C'est sûr que ça a marché.
En fait je crois que la BD est parue dans Heavy Metal Magazine. Ça a pas mal marché, et donc je pense qu'il y a un éditeur tôt ou tard là-bas qui va l'acheter, et du coup j'espère que quelqu'un dira à Kirkman, hey, t'as fait comme les Frenchies.
Faut croiser les doigts. On va peut-être laisser, si vous avez des questions à poser, la parole au public.
Disons que dans 20 jours plus tard, donc les zombies courent, on appelle ça zombie parce que c'est facile, ça va plus vite que de dire les enragés, les infectés, et puis personne n'est d'accord sur le terme, est-ce que c'est les enragés, les infectés ou quoi. Donc on dit zombie, les zombies qui courent, on fait la différence tout de suite. Et évidemment, je crois, j'ai lu un bouquin en fait, parce qu'il y a plein de gens, bah, comme ce que tu dis, ou même ce que moi je pense, et dans ce que j'écris, dans l'histoire que j'écris, les zombies courent, il y a ceux qui rôdent, qui sont morts et tout ça, et il y a ceux qui courent. Et jusque-là, on ne me demande pas trop d'expliquer, donc je m'en contente bien. Il y en a qui sont un peu moins putréfiés, qui peuvent courir, et d'autres non. Et je parle à un moment donné, j'ai une petite explication pseudo-scientifique pour expliquer ça, mais ça tient à rien. Mais voilà, le divertissement avant tout. Et j'ai lu un roman dont j'ai oublié le titre et j'ai oublié l'auteur. Et le gars a trouvé le truc génial pour expliquer ça. Ça s'appelle Day of Armageddon, je crois. Le mec raconte en fait que...
Comme un journal de bord.
Ouais, je crois que c'est celui-là. Et en fait, alors le gars dit qu'il y a deux zombies. Il y a les zombies qui courent et les zombies qui sont tout mous. Les zombies qui sont tout mous, c'est ceux qui ont eu le virus et qui sont morts, qui se relèvent donc putréfiés. Donc la circulation sanguine s'est arrêtée, ils ont une rigueur mortis, une raideur cadavérique et tout ça, donc bah, ils ne peuvent pas courir. Par contre, ceux qui sont infectés, qui ont eu le virus, mais qu'on n'a pas tué, ceux-là sont capables de courir. Et le gars, en fait, tout simplement dit, voilà, il y a juste un virus qui vous ressuscite. Si vous êtes mort, vous êtes tout mou, et si personne vous a tué, vous restez pas tout dur, mais capable de courir.
Alors, juste pour la petite note, Danny Boyle, en fait, dans 28 jours plus tard, lui, il n'utilise jamais le terme de zombie. C'est exactement comme Romero, quand il a fait La nuit des morts vivants, en fait, il n'est aucunement question de zombie durant le film. Lui-même n'évoque dans le scénario, puis durant toutes les premières interviews qu'il a fait de 68 à 71, il parle de ghouls. Et c'est la critique, en fait, enfin, dans différentes chroniques, comme ça, on a commencé à parler de zombies. Et pour 28 jours plus tard, c'est la même chose, en fait. C'est différentes critiques, à droite et à gauche, des fans qui ont commencé à parler de zombies, mais dans la tête de Danny Boyle, il n'était pas forcément question de parler de zombies directement.
C'est juste pratique, quoi.
Personne n'a d'autres questions existentialistes à poser sur les vampires et les zombies. Bon, on va continuer un petit peu. Est-ce que... À part donc Buffy, tout ça, quelles sont pour toi les grandes œuvres récentes qui ont marqué le monde du vampirisme?
Par mes livres,
évidemment.
Non, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai vu récemment qui m'a... J'ai rien vu qui m'a transcendé sur le vampire récemment, justement. Buffy m'a trop marqué et du coup, tout le reste me paraît un peu fade à côté, donc j'ai pas de référence comme ça à sortir. Les derniers trucs que j'ai lus m'ont pas emballé sur le vampire. Comment ? Noblesse ? C'est un manga, un roman ? Pardon ?
C'est coréen.
Ok, c'est un manga donc. Un manga coréen. Ah oui, d'accord, parce que je connais pas bien le vocabulaire. Ouais ? D'accord, parce que j'avais signé un autre truc de vampire, ça s'appelait Blood quelque chose.
Blood Plus ?
Ouais, mais je crois que c'est pas celui-là en fait. Enfin, c'était un manga, j'avais vu animé, et les histoires de vampires, c'était vraiment bizarre, et puis c'était trop long. Je supporte pas les animés, moi, parce que il se passe 15 ans, enfin 15 épisodes, alors que quand on a le manga, on peut tourner les pages plus vite. Et on n'a pas les voix horribles des actrices japonaises, que moi je ne supporte pas, les petites voix aiguës, là. Calme-toi, c'est pas grave, ce n'est qu'un vampire. Et donc voilà, donc, ce qui fait que j'ai arrêté en cours de route. Mais c'est peut-être Blood Plus. C'est exactement ce qu'il me faut. Ah, ça par contre, moi j'aime bien que ça coûte cher quand même pour avoir l'impression de... Okay. D'accord, ouais, non, moi je regarderai. Merci.
Ah.
Ouais.
Ils abordent les vampires comme des gens d'hommes.
D'accord, ouais, ben voilà, c'est ça. Ils ont raison, il y a cette composante dans le vampire qui est moins utilisée maintenant.
Dans un genre très différent, mais enfin, je sais que ça a été un livre, moi j'ai vu le film, il y a un film.
Ah oui, ça c'est. Ouais, ben je l'ai oublié, je suis désolé. Oui, celui-là il déchire. Excusez-moi, je l'ai oublié. Ouais, non. Bref, ça, c'est mon dernier coup de cœur en matière de vampire. Ça, je crois que c'est celui qui m'a donné envie de réécrire les histoires des vampires.
D'accord. D'ailleurs, entre le roman et le film, il y a une très grosse différence parce que dans le roman, il s'agit d'un petit garçon, en fait, le vampire, alors que dans le film, c'est pas aussi clair. Il y avait une histoire de un petit peu d'homosexualité qui était dans le roman, qui a été complètement éliminée du film. Ouais, voilà, c'est ça. Et enfin, les deux sont incroyables. Enfin, le roman était impressionnant et le film, question mise en scène, ça a été une sacrée baffe. Et toi, donc justement, question zombie, quels sont les derniers
réfléchissais en même temps, là, je trouve pas grand-chose. Moi, les classiques, mais c'est ceux qu'on voit depuis 10 ans. Le remake de Zack Snyder, que je trouvais super. L'Armée des Morts. Ouais. Les 28 jours plus tard, pareil, qui est génial. 28 semaines plus tard, qui est un peu moins bon, beaucoup moins bon. Et alors là, peut-être que parmi vous, certains ont peut-être vu des films révolutionnaires. Je crois que moi, j'ai rien vu ces dernières années qui casse trois pattes à un canard. Les derniers Romero ne sont pas bons. Je ne sais pas si...
Faut pas me dire ça.
Ah mince, c'est si, ils sont trop forts. Parce que Papy Romero, donc, il n'est pas aussi mort que ses créatures. Et non, vraiment, je trouve qu'il n'y a pas une bonne... comment dire ? Même si c'est la mode du zombie, je vois pas beaucoup de bonnes œuvres de zombies. Donc il y a Walking Dead, mais pour le coup là j'ai pas lu, mais je sais que c'est bon, tout le monde en parle, donc je me mouille pas en disant que c'est bon. Il y a Zombie de Olivier Perru qui est très bon. Et sinon, quelques bons films, mais c'est ceux qu'on voit depuis longtemps, ouais. Donc peut-être que toi tu dois en voir plus que moi. Ben, ou tu...
Justement, en fait, l'impression que j'ai, que ce soit au niveau des zombies ou des vampires, c'est qu'on voit pas vraiment de choses novatrices.
Il faut aller chercher dans le jeu vidéo. Pour le coup, ouais. Je suis pas un gros gamer, mais j'essaye de temps en temps que je prends des vacances, de passer une semaine ou deux à faire que jouer. Et il y a quelques mois, j'ai joué à Dead Island sur Xbox, où pour le coup, rien de révolutionnaire, vous incarnez un personnage qui est sur une île et vous tuez des zombies pendant 3 jours pour vous en sortir. Et en fait, c'est juste super bien fait, c'est cool, c'est ludique, c'est plein d'hémoglobine. Ça vous stresse un peu, ça fait appel à vos réflexes, un peu d'intelligence et tout ça. Et avant ça, il y avait un Left 4 Dead. Qui est un jeu en fait où vous devez allumer du zombie non-stop, c'est 100% action et c'est super bien fait. Et donc en fait, je crois que je prends plus de plaisir maintenant à jouer à des trucs de zombies qu'à en lire ou en voir au cinéma ou à la télé quoi. Je crois que c'est là que les nouvelles idées sont.
Ouais, d'accord.
Ah oui.
Il y a Shaun of the Dead peut-être.
DVD
même disque qu'est-ce qu'on a sorti.
Oh
90% des
coups de zombies. Non, c'est en fait, un personnage se réveille et en fait, il sait pas qu'il est un zombie. Il s'en rend compte parce qu'il perd son drap et que ça lui fait pas mal et qu'il peut le remettre. Et en fait, il a une bague, il sait qu'il est amoureux d'une fille et il veut retrouver cette fille. Et c'est vraiment fait avec beaucoup d'humour.
Ça y est, je vois. Oui, une petite production américaine là, qui était plutôt sympa, tournée en DV. Par contre, je serais incapable de retrouver le titre. Qui était bien fait, ouais.
Le problème du zombie aujourd'hui, c'est que comme l'idée de base du zombie est hyper simple, c'est genre, si vous voulez faire un film ou une œuvre de zombie, votre producteur ou votre éditeur va te dire, c'est quoi ton idée? Donc, c'est des zombies et un ancien Marines, un ancien serveur de McDo, ou alors un couple homosexuel, ou encore plus original, je sais pas, c'est deux enfants aveugles, ou un aveugle et un sourd, enfin voilà. Donc il y a toujours les zombies et quelque chose. Et donc à partir de là, renverser la vapeur en disant c'est l'histoire d'un personnage qui ne sait pas qu'il est zombie, ça change un petit peu le truc et ça redonne de l'intérêt à l'œuvre du zombie. Après je sais pas si c'est bien ou pas, visiblement ça a l'air de l'être.
Et...
Ah je l'ai pas vu, j'ai entendu parler.
Ouais.
En fait, je pense que les prochaines œuvres de zombies, ça sera que des trucs comme ça. Il n'y aura plus de grands films de zombies, genre classiques, où peut-être les Américains en feront un tous les 10 ans, histoire de dire on remet le truc à jour. Mais les prochaines œuvres de zombies, ce sera renverser la vapeur, trouver un petit détail qui fait que ça change, trouver un petit détail dans la catchline en fait, du film. Quand on vous explique le film en deux lignes, il faut que ce soit original. Et donc là, voilà, c'est typique les exemples de ce qui peut se faire. Ah, oui, je l'ai pas lu, mais j'ai entendu parler, il paraît que c'est bien aussi.
C'est d'automne, donc c'est court. C'est pas des trucs, des fois, les gens veulent faire 15 minutes, mais vraiment. Et là, c'est vraiment bien, et c'est pareil, c'est le même genre de truc où les zombies, en fait, ils mettent longtemps avant vraiment de devenir une espèce de rôdeur qui peut prendre des projets sans s'arrêter. Et ouais, c'est l'histoire d'un mec qui se prend pour un raciste, enfin, pour une histoire en gros, c'est un zombie, et puis
Bah, ça c'est cool. Hein. Ah non, faut cartonner, ouais. Bah, le jeu, l'avantage du jeu, c'est que ça vous plonge dans l'ambiance. Et quand on joue, enfin, où il y a le stress de tirer, et puis bon, bah, si on aime ça, c'est cool. Ou alors on est dans une ambiance apeurante, on éteint la lumière. Je sais pas si apeurante c'est français, ou c'est québécois. Ou...
On garde.
Et voilà, le jeu vidéo, en fait, ça, le film, vous êtes spectateur passif, vous régressez à l'âge de 5 ans en éteignant la lumière, vous regardez gentiment votre film, vous avez peur ou pas. Quand vous lisez, vous êtes un peu plus acteur, vous êtes un peu plus dedans, et quand vous jouez, vous êtes 100% acteur. Et donc c'est peut-être là que du coup il y a plus de sensations, même si on voit pas des zombies ou... Ah ouais, c'est super cool quand même.
Bah c'est l'un des plus grands, une des plus grandes différences pour moi entre les zombies et puis les vampires, c'est que le personnage du vampire, un peu, j'ai l'impression, permet de des évolutions très très différentes, enfin une plus grande variété d'évolutions, alors que le zombie, finalement, bon ben, c'est comme tu le disais, on se retrouve un petit peu toujours avec le même schéma du fait que la personne linéaire, tout ce qu'elle s'est bouffé du cerveau. On n'a pas forcément énormément d'élaboration possible, même s'il y avait un Anglais qui a fait quelque chose de très intéressant qui s'appelait Dead Girls il y a ça quelques années, qui essayait vraiment de faire le côté dramatique du zombie, c'est-à-dire que là, les gens se retrouvaient avec des membres de leur famille qui étaient mortes, mais il allait un petit peu plus loin que ce qu'on voit dans les films américains. Ah bon, t'es morte, maman, je te flingue quand même. Où là, il y avait quand même, les gens se posent des questions, c'est quand même ma mère, donc les gens regardaient à la maison, il avait essayé de développer un petit peu ça. Mais c'est vrai que finalement, on se retrouve un petit peu toujours avec les mêmes thématiques, alors que le vampire laisse plus de portes ouvertes, j'ai l'impression, à des approches très très différentes.
Oui, alors je pense de toute façon qu'on est dans une ère de métamorphose du zombie, pour le dire, c'est un petit peu... Juste, je vais commencer avec une anecdote. En fait, j'étais en train de me suis retrouvé à raconter à mes élèves, parce que je suis prof aussi, que j'étais tout fier, je vais participer à une table ronde vampire contre zombie. Et là, il y a un élève qui soupire, qui fait quand même monsieur à votre âge. Et donc, il m'a vexé. Et donc, je me suis mis tout de suite à réfléchir en lui disant, mais attends, ce n'est pas ce que tu crois, c'est beaucoup plus intellectuel. Et heureusement, j'ai une idée qui m'est venue. Alors, je ne sais pas si elle est valable, mais c'était la deuxième dont je parlais tout à l'heure, donc il fallait absolument que je la place. Et j'ai réfléchi que la différence principale, selon moi, entre le vampire et le zombie, c'est que le vampire, c'est un personnage balzacien. C'est-à-dire que c'est le personnage, comme on le conçoit dans le roman, parce que j'en reste au roman, au 19e siècle, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est conquérant, bien individualisé, qui cherche à obtenir le plus de choses possible, et dont le monde est à sa mesure. On pense à Rastignac, ce genre de choses. Donc le vampire incarne bien ça, et c'est pour ça qu'il est individualisé, qu'il finit toujours par être un seigneur, même si c'est l'incarnation d'un passé révolu. Tandis que le zombie, c'est vraiment l'ère du soupçon, c'est les années 70, c'est le nouveau roman, c'est-à-dire le personnage numéro, après la guerre de 39-45, où on a des tueries en grande masse, et où l'individu finalement n'apparaît que comme un grain de sable là-dedans. Et je pense que chacun des deux types de personnages est apparu vraiment à des périodes justement où il parlait, qui correspondait vraiment à la conception. Et je pense que justement ces modifications, puisqu'on n'est plus dans les années 70 récentes sur le zombie, font que soit le. Justement, il commence. Moi, je ne suis pas complètement d'accord, il évolue le zombie. Alors, reste à savoir si, justement, en faisant courir les zombies, en donnant des sentiments aux zombies, soit on dénature, à ce moment-là, la créature tombe en désuétude, soit il continue d'évoluer, il s'adapte au temps, soit il y a un nouveau type de créature qui va arriver, qui correspondra à la manière dont on conçoit le personnage et l'individu, et la société avec, au 21e siècle. Donc. Je pense quand même que les deux sont plastiques et sincèrement, avant de me plonger un peu dans le zombie, j'aurais pas imaginé autant, je pensais aussi comme ça, que c'était quand même une créature, bon. Mais déjà de le faire courir, au début ça peut sembler ridicule, on dit non, c'est pas des vrais zombies et tout. Mais en fait si, c'est vachement intéressant quand on commence à réfléchir, à dire pourquoi celui-là est court, pourquoi celui-là ne court pas. Toutes les idées autour effectivement de la contamination, moi je pense que soit le zombie va continuer à évoluer, mais on ne lui a pas encore laissé beaucoup de temps pour le voir, soit il va disparaître, mais il sera remplacé par quelque chose d'autre. C'est en fait tout ça, c'est la même famille des non-morts, hein, finalement. Donc, moi j'y crois très fort. Les zombies auront de l'avenir. Et les vampires aussi, bien sûr.
Romero lui avait commencé à travailler justement sur cette notion d'évolution depuis le jour des morts vivants, où il commençait à essayer d'apprivoiser les morts-vivants, de faire comprendre que finalement on pouvait en faire quelque chose. Et l'idée qu'il avait à la base, finalement, qu'il n'a pas tant développé que ça, c'était qu'il allait faire devenir les zombies comme de véritables êtres humains. Mm-hmm. Finalement, bon, il a laissé tomber un petit peu toute cette approche. Mais la question, c'est justement, est-ce qu'en faisant, en donnant une sorte d'intelligence, en donnant le langage aux zombies, est-ce qu'on est toujours en présence de véritables zombies?
Ça, on pourra que le voir au fur et à mesure. Mais ce qui est intéressant, peut-être, c'est d'insister justement sur le phénomène, comme on le disait tout à l'heure, du passage à l'état zombie, quoi. Là, ça peut être justement à l'inverse du vampire qui incarne la jeunesse éternelle et tout, donc on vieillira jamais. Là, c'est ouais, tu vas vieillir, tu vas tomber malade. Et on n'est plus. En fait, il y a un renversement aussi. On n'est plus dans une société où on se dit la prochaine génération vivra mieux que nous. On plutôt à se dire ils vont vivre moins bien. On était avec l'idée, ouais, on a soigné le cancer. Enfin, ça fait 40 ans qu'on entend ça. La science va tous nous sauver. On est moins dans cette optique-là, et du coup le zombie va incarner ses peurs de dégénérescence, donc ouais, tu deviens zombie, il y a Alzheimer aussi qui peut faire penser à toutes les peurs en vieillissant, donc moi je pense qu'avec tout ce qui est vieillissement, le zombie a de belles années devant lui.
En tout cas, actuellement, c'est vrai qu'on compte plus, en matière de cinéma, de direct ou vidéo et tout ça, le nombre de films autour des zombies qui sont sortis depuis le début des années 2000, et il est tout simplement phénoménal, quoi. Moi, j'ai arrêté de...
Disons, c'est que des productions indépendantes qui coûtent rien. Donc les mecs se lancent avec 1 million d'euros, ils font un petit film et ils savent que c'est vendu direct en DVD. Donc les grosses boîtes de prod prennent plus de risques. Et les seules boîtes de prod qui acceptent de prendre des risques sur des films de zombies, en fait, elles demandent des pitchs, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est quoi la petite idée en plus. Et là, moi, je travaille un peu à la télé ou au ciné et tout ça, et ça fait plusieurs fois qu'on évoque avec moi des projets de zombies, et à chaque fois, ça s'arrête, hein, c'est quoi le truc en plus. Quand tu dis, ouais, je vais vous faire une super histoire de zombies, un truc de malade, beaucoup d'émotions, des super décors, une histoire humaine et tout, tout le monde s'en fout. Il te dit, c'est normal, hein, les prods vont vous dire, bah non, ça a déjà été fait, les Américains font ça mieux que nous et tout ça. Donc, ça, c'est la porte est fermée direct. Et le truc en plus, c'est on vous demande, est-ce que ça va être drôle, est-ce que tu vas rajouter des petits trucs, des petits twists qui vont faire que ça va être intéressant. Et donc là, je pense que l'avenir cinématographique du zombie, il est dans le zombie et quelque chose.
Il y a une production justement indépendante américaine comme ça qui s'appelle Smell of the Flesh. Petit truc indépendant, vraiment tourné avec deux francs de 6 sous, mais qui était super intéressant parce qu'ils introduisaient, voilà, il avait trouvé les deux idées qui étaient intéressantes. Un, c'est qu'il faisait, un de ceux qui luttaient contre les zombies, il faisait du free fight, donc c'était assez marrant. Et la seconde idée, c'était qu'un des couples qui était au centre, c'était un couple échangiste, et qui vivait donc très mal le changement de situation avec l'arrivée des zombies, et donc ils commençaient à vivre leur délire échangiste, mais avec des zombies. Donc voilà, c'était le petit pitch en plus.
Il faut avoir rien accroché après. Là.
Voilà, c'était assez trash de ce côté-là. Mais j'ai l'impression, oui, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est toujours essayer de trouver le petit truc en plus qui va réussir à faire passer.
Mais je pense que ce que disait Fabien, c'est pas faux. Le zombie.
Je te remercie.
Non, mais du coup, c'est l'occasion, comme je réfléchis pas beaucoup, de réfléchir en même temps qu'on parle. Et le fait que le zombie est quelque part, il incarne des peurs modernes, le personnage zombie en tant que tel va évoluer avec nos peurs. Et donc, c'est vrai qu'il peut évoluer. Enfin, après tout, Twilight, c'est des vampires qui vont en plein jour. Donc, les vrais amoureux du vampire vont me dire, c'est pas des vampires, quoi. C'est juste des mecs qui vont en plein jour, qui sucent un peu de sang et puis basta, quoi. Mais le zombie, pareil, peut-être dans 10 ans, le zombie sera capable de penser, de parler, il ira faire ses courses, et puis les fans hardcore de zombies vont dire non, c'est pas des zombies, c'est juste des mecs putréfiés, qui n'ont plus de pulsations cardiaques, ils sont juste morts et ils font le restore, quoi. Donc oui, en fait, je pense que le personnage peut évoluer, même si le zombie classique tel qu'il a été défini par Romero et boosté par le 28 jours plus tard, ce zombie-là, à mon avis, évoluera plus. Par contre, il y aura peut-être un nouveau type de zombie, qui sera un personnage plus normal.
Alors, la petite dernière question avant qu'on arrête, c'est est-ce que, malgré le fait, bon, j'ai un petit peu l'impression que le zombie est un petit peu coincé dans certains stéréotypes et tout ça, n'empêche qu'il témoigne beaucoup plus de certaines peurs concrètes liées à notre époque. On a parlé de maladies, tout ça. Par contre, le vampire, lui, j'ai l'impression qu'il est justement que ce côté terrifiant par rapport à différentes menaces, que ce soit politique ou que ce soit lié à des virus et tout ça, lui il a complètement perdu ce côté-là. C'est vraiment ça se voit un petit peu, notamment dans le succès qu'ont tous ces films, notamment après post 11 septembre, il y a eu quand même une masse de films sur les zombies. qu'on a du mal à pas lier aussi aux États-Unis directement à ce courant-là. Donc est-ce que le zombie n'est pas devenu un petit peu le grand colporteur de nos frayeurs actuelles et que le vampire, lui, a un petit peu perdu tout ce côté-là et s'est développé vers de nouveaux créneaux?
Oui, je pense, pour répondre rapidement, parce que le problème de la contagion, si je me souviens bien, le vampire, au début, il ne transforme pas, il n'a pas forcément le pouvoir de transformer les personnes qu'il mord. Par contre, il les tue parce qu'au bout d'un moment, il leur fonctionne le sang, les personnes s'affaiblissent et disparaissent. Mais ce n'est pas toujours le cas, enfin, il n'arrive pas toujours à les ressusciter. Il y a eu une contagion justement entre la figure, alors je ne sais plus dans quel sens ça s'est passé, mais entre la figure du loup-garou par exemple, qui est aussi très ancienne, hein, on trouve au 1er siècle après Jésus-Christ, dans le Satyricon de Pétrone, un loup-garou, et je pense qu'on pourrait remonter avant aussi, où le loup-garou, il y a un moment où effectivement, quand il tue quelqu'un, il le tue, c'est tout, et c'est, ça ne devient pas un loup-garou. Donc en fait, je pense que les figures de contagion, parce qu'on a peur de la contagion aujourd'hui, mais on pense à des époques où il y a de la peste et tout ça, et ça fait sacrément des dégâts. Cette peur, elle a toujours existé, elle continue maintenant, mais en fait, il y avait plusieurs créatures qui pouvaient un peu l'incarner. Et c'est vrai qu'à mon avis, là, le zombie l'incarne mieux en ce moment. Et ça peut bouger, mais en fait, ils sont plusieurs sur le même créneau.
Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que oui, le zombie incarne les peurs modernes et tout ça, et puis ce qui est intéressant dans les histoires de zombies, c'est pas tellement le zombie, le vampire est toujours l'acteur ou le héros de son histoire. Le zombie, bon, il est juste là, il est mort, et puis il vous bloque certains accès. Et ce qui est intéressant dans les histoires de zombies, c'est les humains. Les zombies sont en fait un décor, un déclencheur, et vous racontez l'histoire de survivants qui vont vers un but ou qui saccagent tout, et c'est ça qu'on raconte dans une histoire de zombies. Et toutes les bonnes histoires de zombies, les zombies, vous les voyez derrière les fenêtres ou en train de courir dans les rues, ça dure un film d'une heure et demie, vous avez un quart d'heure de zombies. Et après, vous avez une heure et quart d'êtres humains qui font quelque chose, quoi. Et c'est ça en fait, c'est pour ça que peut-être le zombie en ce moment est à la mode ou quoi, c'est parce qu'on raconte des histoires de peur, des humains qui flippent, de fin du monde, de maladies, ce genre de choses.
Bien, merci beaucoup à tous les deux, merci d'être venus, et bien, à l'année prochaine.